Bonsoir, très heureuse que vous soyez si nombreux malgré le froid pour cette séance consacrée à la question du grand autre. Et j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Jean-Charles Fébrenon-Piguet, avec qui j'ai travaillé il y a fort longtemps. On a fait, je crois, 3-4 ans
d'atelier
de psy hebdomadaire.
Non, tous les 15 jours.
C'était tous les 15 jours en alternance.
Pendant
6-7
ans. Ouais,
donc,
c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pensé à lui pour ce cycle qui est en relation avec l'exposition qui est dans le centre d'art, si vous avez l'occasion de voir, dont la thématique c'était l'autre, de l'image à la réalité, et qui se termine bientôt. Le 8 décembre, il y a la sortie du catalogue, donc vous êtes invité à boire un coup ce soir-là, donc c'est bientôt. Le 8, c'est la semaine prochaine. Mon Dieu, comme ça passe vite. Voilà, ça va trop vite. Bien, nous avons déjà fait une première séance qui est disponible sur le site de la Maison Populaire si vous souhaitez l'entendre. C'est pourquoi cette séance sera réenregistrée avec l'autorisation de Jean-Charles pour faire profiter ceux qui n'ont pas pu venir ce soir et puis vous si vous voulez réentendre. Et comme ça vous êtes disponible, il n'y a pas de prise de notes spécialement ce soir, si vous voulez réécouter, prendre des notes plus tard. C'est aussi une façon agréable de faire la séance. Bien, Jean-Charles.
Bon, ben je...
Voilà, tu as la parole.
Très bien. Alors, comme vient de vous le dire Annie, je suis intervenu il y a au mois de juin, si je me souviens bien. Comme c'est disponible, ben, ça m'oblige ce soir de dire des choses un peu différemment. Même s'il y aura effectivement de parler du grand autre... En psychanalyse, c'est d'abord parler de la psychanalyse, hein, et ensuite de qu'est-ce que c'est qu'une notion en psychanalyse et cette notion d'autre, hein, qui est amenée par Lacan dans les années 53, mais qu'on retrouve un peu chez Freud. Alors, très très rapidement, mais ça courra après au cours de ce que je vais vous raconter. La cure analytique, c'est un dispositif. C'est un dispositif très singulier, hein, puisque l'analysant est incité à l'association libre, et l'analyste va intervenir sur des points très particuliers, hein, que j'ai essayé d'expliciter. Alors, ce lien analytique, ça a surpris Freud, c'est que a surgi d'une dimension, ce qu'il appelle transférentielle, qui est une dimension d'amour et de haine. Hein. La haine étant importante en psychanalyse, puisque même Lacan a soutenu que la psychanalyse ne commençait qu'à partir du transfert négatif. C'est un lien de parole où ce qui va s'entendre, c'est que quelque chose essaye de se réaliser. Essaye de se réaliser à partir des ratages. Alors, les gens qui viennent en analyse, c'est, je dirais, quiconque. Et Dolto analysait des enfants d'un ou deux ans, et c'est vrai que ça a des effets étonnants, c'est-à-dire que ça concerne tout un chacun. Il n'y a pas d'indication à la psychanalyse. Simplement, c'est que chacun peut engager quelque chose, et puis ce processus peut s'interrompre ou se poursuivent jusqu'à certains points. Quelque chose essaye de se réaliser, et ce qui amène en analyse, c'est que, on va dire, ça rate. Ça rate avec les autres, ça rate dans l'amour, ça rate dans la sexualité, ça va pas. Et ce qui est promu par la psychanalyse, c'est que ce ratage, bah, c'est quelque chose de très singulier pour tout un chacun, et c'est peut-être même une chance. Hein, parce que un analyste qui était tout à fait intéressant, qui dirigeait la Borde, parlait des normopathes, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils sont normaux, bah pour Jean Houry, c'était une pathologie. Donc, on se met dans cette perspective du ratage, et je dirais que si vous lisez l'introduction à la psychanalyse de Freud, 1915. Tout le début de ses conférences, c'est sur les méprises de la parole, les lapsus, les actes manqués, les oublis. Donc sa rate et sa défaille, dans les mots, lors des récits, où il est question de ratage, et ce qu'on entend au cours d'une analyse, c'est là, ce que je vais dire là, c'est substantifier l'inconscient, mais bon, pourquoi pas, c'est pas très rigoureux, mais Lacan a dit à un moment, il faut apprendre à l'inconscient à lire. C'est-à-dire qu'il y a un rêve, et puis ça peut être suivi par un lapsus, ça peut être suivi par un oubli. Il y a quelque chose d'une lecture qui se fait chez l'analysant, mais je dirais qu'entre l'analysant et l'analyste. Ce qui a amené Lacan à parler que l'inconscient, ce n'est pas l'inconscient de quelqu'un, cet inconscient est transindividuel. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous dire ce soir. C'est que il l'a repris de Freud, puisque Freud, en Psychologie collective, analyse du moi, 1921, je vais vous le lire. Dans la vie psychique de l'individu pris isolément, l'autre, et là, dans la traduction française, c'est avec un grand A, le grand autre, intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire, et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale, en ce sens élargie mais parfaitement justifiée. Donc si pour moi déjà ce soir on peut être comme ça traversé par que la psychanalyse, c'est pas la psychanalyse de quelqu'un. Et puis que le symptôme que chacun on peut avoir, parce que c'est pas mal d'être aux prises avec un symptôme, c'est pas le symptôme de quelqu'un, c'est le symptôme d'un discours. Effectivement supporté par quelqu'un au niveau de son corps, au niveau de ses pensées, mais ce n'est pas la symptomatologie de quelqu'un. Et c'est là qu'on sort d'une dimension médicale, où le symptôme est le symptôme de quelqu'un, éventuellement même, pour un syndrome de psychiatre, ça se réfère au cerveau. Et j'espère vous faire entendre ce soir que la dimension du signifiant ou de la représentation inconsciente, c'est quelque chose qui échappe, qui n'est pas localisable, et qui, parce que c'est pas, ça échappe, ce n'est pas tangible, et que toutes les pratiques thérapeutiques qui sont du côté des émotions ou du côté du corps essayent de soutenir quelque chose du tangible et passent à côté de cette dimension de l'inconscient et donc du grand autre. Alors, je n'avais pas de tableau, je pensais écrire deux, trois trucs. J'ai fait des têtes de chapitre. Donc, je vais vous dire les têtes de chapitre. Non, non, ce n'est pas nécessaire, Annie. Ce n'est pas nécessaire. Mon premier tête de chapitre, c'est « Je ne peux pas vivre sans entourage ». La deuxième, c'est « Une toile d'araignée ». La troisième, c'est « Faire son trou ». La quatrième, c'est « Tuer ma génitrice ». Tuer. Et la fin, je terminerai sur du visage, du nom et du sexe. Alors, je ne peux pas vivre sans entourage. Ça, c'est quelqu'un qui me disait ça parce qu'il avait dans son corps sa famille. Et en fonction de comment sa famille bougeait, bah, ça le portait à droite ou ça le portait à gauche. Et il avait beaucoup de mal d'être avec les autres. Et il avait une nécessité quand même, malgré d'être envahi par les membres de sa famille, de bah, d'être entouré. Cette semaine, analysons rêve. Un rêve, c'est-à-dire, il me raconte, un colosse passe à côté de lui et lui frappe et lui donne un coup de pied à la jambe. C'est tout. C'est simplement ce récit de rêve. Il associe sur que la veille, il avait coupé du bois et il avait reçu un morceau de bois à l'endroit où, dans ce rêve, le colosse le frappe. Alors qu'en dire? Parce qu'il n'en dis pas plus. Moi, mes associations en l'écoutant, c'est que cette douleur qui est une altérité liée à ce morceau de bois qui est une altérité, a suscité des représentations s'agençant notamment en figure de colosse. Ceci lui est singulier, mais pas seulement. Car de cet incident, de cette douleur, il en fait un événement, Freud dirait psychique, vaut mieux dire signifiant. Vous verrez que c'était important de ne plus employer le terme de psychique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de causalité psychique, il y a une causalité signifiante. Disons un événement signifiant venant se figurer en rêve et attribuer à un colosse qui est la figure d'une puissance. Alors c'est quoi cette puissance ? Certes, il y a des altérités qui nous touchent, mais l'altérité la plus importante, ce sont les mots. Les mots qui vont nous toucher, qui vont nous caresser, mais qui vont nous choquer. Ce sont des mots qui sont cette altérité, cet autre, à même le corps, et qui, s'ils sont investis, vont produire une réplique en image, en figuration, ou une réplique en mots, mais en mots qui passent le signifiant. Donc, voyez cette toute-puissance qui est figurée par ce colosse. Ben, c'est une toute-puissance des mots, c'est la toute-puissance du langage. Et la psychanalyse, le point essentiel de la psychanalyse, c'est d'être au plus près avec ce dispositif, de travailler la rencontre du langage, donc des mots, avec le corps. Souvent, on dit, la psychanalyse, vous occupez que de l'intellect, que des mots, que... La psychanalyse s'occupe de la rencontre du langage et du corps, ce que Freud a appelé le pulsionnel. Alors, cette toute-puissance peut prendre deux exemples qui ne se contredisent pas, même si ils peuvent, on peut y trouver un écart. Ça se retrouve dans « Malaise dans la civilisation ». Je prends souvent cet exemple parce que pour moi, il est très, très parlant et très intéressant. C'est-à-dire quelqu'un, un enfant, a envie de quelque chose et puis on lui dit non. Non, tu ne vas pas le prendre, ça. Bon, il ne le prend pas. Donc, il y a eu un souhait et puis il y a un interdit. Et puis, quand il est seul, quelques jours après, le même objet... Un objet qui peut être faire jouer quelque chose du corps qui regarde, ça peut être le corps qui est de la bouche, ça peut être le corps qui écoute, ça peut être le corps qui agit et qui lâche des choses. Eh bien, il va avoir le même souhait, et puis il va s'arrêter. Donc on va dire que là, il y a quelque chose du pulsionnel qui est arrêté, par un interdit qui persiste en l'absence de celui qui l'a énoncé. Ça va se refouler, et puis ça va faire retour, peut-être quelque temps après, dans un symptôme ou dans un autre souhait. Alors là, ce serait une notion du refoulement liée à la répression. Et puis Freud, en écoutant ses patients, et puis les analyses depuis quand même un siècle maintenant, un peu plus d'un siècle, cette rencontre du langage et du corps qui entame la satisfaction d'une pulsion, qui marque quelque chose, cette pulsion est marquée d'une représentation d'un mot, d'un phonème, d'un signifiant, et bien ça, c'est lourd, ça, cette entame de satisfaction, cette entame de jouissance, elle existe même s'il n'y a pas d'interdit. C'est ce que Freud a parlé, le refoulement primordial, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne retrouvera jamais, mais qui est ce point ombilical de la rencontre du langage et du corps. Et l'analyste tente de se tenir à ce point-là. Donc vous voyez que il y a eu un souhait, Il y a un interdit. Le souhait et l'interdit se sont rencontrés. Et on va dire que l'interdit a fonctionné dans une relation d'amour. Parce que, dit Freud, l'enfant ou l'adulte a bien peur de perdre l'amour de celui qui est là, qui est son interlocuteur. Et puis, bien évidemment, il y a une réplique peut-être verbale de la personne, ça peut être une injure, ça peut être silencieux, et que donc il y a quelque chose qui va aussi venir s'associer, c'est la culpabilité. Tout ça, dans un deuxième temps, est refoulé, et ça va faire retour dans des rêves, dans des symptômes, dans des lapsus, dans des oublis, dans des actes manqués. Donc garder un peu ce mouvement de quelque chose qui s'est complexifié, interdit, souhait, amour, coupable, ça va persister avec un élément inconscient, représentatif, Lacan dit signifiant, pour le renvoyer quand même à une dimension langagière. Et ça, ce signifiant inconscient, va faire retour. Alors, est-ce que c'est le même quand ça fait retour dans un lapsus, dans un rêve? C'est pas sûr. Et que je dirais que l'ensemble de ces représentations, l'ensemble de ces signifiants qui vont peut-être faire retour, parce qu'il faut aussi que ce soit écouté, Lacan a appelé ça l'autre, le grand autre. Ce que Freud appelait l'inconscient, Lacan l'a appelé le discours de l'autre, du grand autre. Alors, ce signifiant, c'est quelque chose qui ressurgit de manière impérative, comme dans un rêve, comme dans une pensée qui nous obsède, hein, comme un symptôme qui revient. Ça surgit dans les méprises de la parole, quelqu'un qui va dire un mot à la place d'un autre, qui cherche un nom. Qui cherche un nom propre. Et ces choses qui vont s'associer d'une manière extrêmement ténue, dans un rêve, ça peut être un élément tout à fait un détail, un lapsus, ces choses vont s'associer l'une à l'autre. Et c'est ça qui va faire dire à Lacan qu'il y a un rapport entre l'élément du rêve avec le lapsus, avec l'acte manqué, et que ce rapport signifiant, ce rapport insignifiant, va représenter le sujet qu'il va écrire S barré, c'est pas un sujet substantivé, avec un autre signifiant. Donc vous avez l'ensemble des signifiants inconscients qui représentent l'autre, qui font l'autre. L'autre qu'il va falloir créer comme un lieu fermé, parce qu'on verra tout à l'heure que c'est pas sûr qu'on puisse le constituer, cet autre comme un ensemble qui est en connexion, qui est un lieu fermé, Lacan dit le lieu du trésor des signifiants, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Et il faut qu'il y ait ce rapport de parole pour que certains éléments fassent retour, et d'une manière où, de toute façon, on ne voudra rien en savoir. Aussi bien l'analysant que l'analyste. Hein? Freud a un très beau texte sur la dénégation au début, où c'est un rêve, et l'analysant dit oh, bah, vous pensez que c'est ma mère, dans ce rêve, vous pensez que c'est ma mère, c'est pas ma mère. Freud dit bah, donc s'il dit que c'est pas sa mère, c'est que c'est sa mère. Hein? Et tout de suite après, il va dire que parfois, avec un analysant, c'est très important de lui demander mais. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose d'invraisemblable? Cet invraisemblable ou cet insupportable, c'est le signe qu'il y a quelque chose d'un retour du refoulé, d'un retour de l'inconscient. Alors, je disais qu'il faut le constituer comme un lieu qui n'est pas localisable, hein, mais qui va surgir aussi circonscrit dans des formes distinguables, c'est-à-dire les autres. Hein, c'est pas avec n'importe qui qu'on fait un lapsus. C'est pas avec n'importe qui que le lendemain on va faire un rêve où cette personne est dedans. Parfois c'est quelqu'un qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans qui ressurgit dans ce rêve. Donc c'est des formes distinguables et c'est celle des semblables. On verra que cette notion de semblable, elle est bien compliquée. Alors parfois, quand ce lieu n'est pas constitué, ben, ça produit d'autres choses, comme par exemple des hallucinations ou des dépersonnalisations. Donc, je ne peux pas vivre sans entourage, c'est-à-dire cet homme, il n'avait pas pu constituer l'autre comme un lieu fermé qui pouvait s'ouvrir de temps en temps. Et donc, c'était là, dans son corps et autour de lui, et il partait dans tous les sens. Car ce qui va donner sens, c'est aussi cette articulation d'un signifiant à l'autre. Alors pourquoi une toute-puissance? Pourquoi ce colosse dans ce rêve? Pourquoi la toute-puissance des mots? Et pourquoi on a affaire à la puissance? Pourquoi on a affaire à l'impuissance? Parce que ce qui amène quelqu'un en analyse, c'est qu'il dit « je ne peux plus. Je peux plus vivre comme ça. Je peux plus vivre avec lui ou avec elle. » Je ne peux plus travailler comme ça, ça ne m'intéresse plus. Il y a une dimension de l'impuissance qui amène en analyse. Et tout le travail de l'analyse, c'est d'amener de cette impuissance à cet impossible, qui est ce point ombilical de la rencontre, du langage et du corps, qui a constitué tout le temps, plus facilement pour certains que d'autres, mais que c'est ce travail-là qu'on a à faire. C'est pour tout un chacun en analyse, c'est de sortir de l'impuissance ou des relations de puissance et d'impuissance pour aller vers ce point-là, qui est un point d'impossible, dit dans la théorie lacanienne, un réel. Quand je disais que c'était avec certaines personnes qu'on fait des lapsus, qu'on fait des actes manqués, je vais essayer de vous illustrer ça aussi, c'est que cet autre va être mis en jeu avec chacun, mais plus avec certaines personnes, et que cet interlocuteur impersonnel auquel nous passons notre temps à nous adresser, il est très important qu'il soit mis en jeu. Freud, dans Les maux d'esprit, prends l'exemple de, mettons, comme actuellement c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on va dire deux hommes qui ont un mauvais esprit et qui voient passer une très jolie femme. Il y en a un qui peut très bien se lever et puis venir la draguer violemment. Mais il peut aussi se mettre à plaisanter avec quelqu'un à côté de lui. C'est-à-dire que l'objet qui passe là, qui est un objet à baiser ou un objet à tuer. Il est très important qu'il puisse y avoir un jeu de parole avec quelqu'un qui met en jeu cette relation au grand autre pour éventuellement s'éloigner, je dirais, du corps à corps et pouvoir éventuellement revenir d'une manière beaucoup plus langagière vers cet objet qui ne sera plus un objet de jouissance, mais peut-être un objet de désir. Et donc, où se jouera du désirable et du désirant, et non pas une obscénité de jouissance meurtrière ou sexuelle. Voilà ce que me disait quelqu'un il y a quelque temps. J'ai si peu entendu parler de moi, parler d'où je venais, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas respirer. C'est quelqu'un qui souffrait d'asthme. Respirer le moins possible. Il a fallu quand même me faire une place tout seul. Rien ne pouvait la préparer pour moi. Je prends maintenant plaisir à parler et c'est plus clair. Nous verrons que ces questions de pas de compter de place tout seul, c'est-à-dire compter que sur soi ou compter sur l'autre, c'est pas la même chose. Et puis, je prends maintenant plaisir à parler et c'est plus clair. On verra aussi cette relation entre le grand autre est le fait de voir et d'être visible. C'est une acquisition de se voir dans un miroir. C'est une inquisition, vous voyez. C'est du corps à corps, l'inquisition. Parfois ça crie, parfois ça se tait, mais d'un silence assourdissant. Des mots, des fragments sonores tombent de ses bouches, de tous ses visages, des regards des bouches, des gueules, souvent. Comment faire avec tout cela? Comment contenir tout cela? Les mots qui font passage signifiant, c'est-à-dire qui font passage de ces éléments inconscients, qui amènent ces ratages dans la parole, mais qui quelquefois sont des mots imprononçables, par exemple. Inquisition, je peux tout à fait en parler s'il est question de religion, de politique et autres. Et puis, peut-être dans un autre champ sémantique, ce mot-là va m'échapper. C'est que peut-être il va rentrer en résonance avec acquisition, avec quelque chose qui est peut-être de la possession, peut-être quelque chose qui renverrait à la dimension sexuelle qui est dans l'inquisition extrêmement présente. Donc les mots qui font passage de signifiant, c'est ça qui fait entourage. Mais pas seulement, car d'autres peuvent nous envahir, sont des mots bruits qui nous envahissent plutôt que de faire entourage. Le rapport au langage, en fait, est d'une grande férocité. Dans les contes, je dirais que ce qui représente la férocité du langage, c'est le loup, l'ogre, ses gueules qui sont sans voix, ça hurle. Et heureusement que le petit chaperon rouge va réintroduire, ou le renard dans les contes, réintroduit cette méprise, ce mensonge. Donc au symbolique immaîtrisé, il y a à payer parfois avec du corps, avec de la chair, faute de pouvoir payer avec des images ou avec des signifiants. Alors, je parlais de cette férocité du langage qui est souvent figurée par l'animalité. Et c'est aussi d'actualité, cette animalité. Cette animalité qui vient nous faire signe de la déshumanisation possible du rapport du sujet au langage, qui entrave la reconnaissance avec les autres et notamment la reconnaissance des visages. Donc traiter quelqu'un d'animal, c'est le déshumaniser. Et on sait qu'il y a 70 ans, il y a un siècle, ça a amené cette déshumanisation jusqu'au génocide. Mais parfois, c'est une injure qui peut venir. On entend ça en ce moment. Cette déshumanisation de l'autre, quand on le traite d'animal, c'est que peut-être avec l'autre, on a rencontré une peur qui nous déshumanisait. Toujours penser les choses entre, et non pas quelque chose qui viendrait de l'un à l'autre. Ça se produit entre deux. Donc ça hurle, ça gueule, ça bruisse. Et de ces mots mal entendus, de ces mots mal dits, qui me font mal voir, j'ai à en faire un lieu, j'ai à le localiser pour les limiter, pour faire oublier leur impératif. J'ai à en faire un lieu à fermer et qui va s'ouvrir de temps en temps, et vis-à-vis duquel je vais avoir à m'inscrire. Donc vous voyez que ce lieu, le grand autre, il est à construire, et j'ai ensuite, moi, à m'inscrire par rapport à ces mots qui m'ont concerné ou que vis-à-vis desquels je me suis senti concerné. Je me sens légitime maintenant à exister. Dans un rêve, maintenant, il y a du monde. Avant, j'étais comme une cigale. J'ai longtemps vécu sous terre. Avant d'en sortir, c'était une prison et je ne volais que dans ma tête. Vous voyez que ce rapport à l'autre touche au sentiment d'exister, touche à la question de l'existence qui, pour tout à chacun, a pu être précaire. Lacan soutient, et Freud aussi, que on est parlé avant même d'être né. C'est-à-dire qu'on a affaire pas seulement à notre vécu, on a affaire à notre histoire familiale, à notre histoire sociale, à l'histoire politique. Cet sentiment d'exister, parce que si dans notre histoire familiale, sociale ou politique, on aurait très bien pu ne pas exister. Ne pas avoir été désiré, ne pas avoir été désiré, peut entraîner une difficulté de se sentir exister. Et si les mots qui nous entourent sont irrespirables, le corps devient lourd, seulement soumis à la loi de la gravitation, ce qui fait que certains enfants ont beaucoup de mal pour se mettre debout. Et comme dans ce rêve où elle dit « je ne volais que dans un rêve », eh bien, ce rêve de vol, je l'ai entendu comme une tentative de s'échapper de cette prison qui était supportée par le corps. Donc, ce qui se construit à notre insu, ce que nous construisons à notre insu comme autre, comme lieu des signifiants, comme interlocuteur personnel. Et à cet interlocuteur personnel sera adressé des questions primordiales qui concernent l'existence et qui concernent notre devenir comme désirant et sexué. Alors on va l'adresser, quand on est enfant, on l'adresse à ses parents, on l'adresse à sa famille, mais via ses parents, sa famille, les proches, les instits, les copains, les copines, c'est à cet interlocuteur impersonnel qu'on s'adresse et dont on attend une réponse. De Certeau, qui était un historien, a écrit un livre qui s'appelle « L'absent de l'histoire ». C'est-à-dire que cette question qu'on pose sur notre existence et sur notre devenir de désirant sexué, on n'aura jamais de réponse. Il n'y aura jamais le mot qui dira qui on est et qui on est comme homme ou comme femme. C'est l'absent de l'histoire. Et l'analyste tient sa place de cette place de l'absent de l'histoire. Donc, c'est pour ça que c'est adressé au lieu de l'analyse ces questions de l'existence et du désir sexué. Et une manière de tenter de s'inscrire dans le symbolique, dans le grand autre, par exemple, quelque chose qui est de pratique maintenant de plus en plus courante, c'est les tatouages. Alors, j'ai été recherché dans Mélanie Klein, qui était une analyste anglaise, qui était assez gonflée, puisque Lacan, c'est vrai qu'elle a des interventions avec les enfants, que même actuellement, un certain nombre d'analystes n'oseraient pas. Lacan l'appelait la trépierre. La tripière, non, tripière, pas trépierre, tripière. Et dans un texte de Mélanie Klein, où elle a un voisin, elle a des voisins qui ont un enfant qui s'appelle Fritz, qui a 4 ans et demi. Et à 4 ans et demi, on pose plein de questions. Et voilà les questions qu'il posait. Où est-ce que j'étais avant d'être né? Quand on pose cette question-là à quelqu'un, on est bien embarrassé pour y répondre. À quoi ça sert un papa? Alors, cette question était, paraît-il, plus fréquente que « à quoi ça sert une maman ?» Qu'est-ce qui existe et qui ne se voit pas? Et comment est-ce qu'une personne s'est fait? Qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui fait pousser une plante? Donc vous voyez que cet enfant de 4 ans et demi pose des questions qui concernent son existence, qui concernent aussi, je n'ai pas relevé toutes les questions, mais qui concernait le corps des autres, et notamment la présence ou non du pénis. Ces questions-là, ben, elles courent en nous tout le temps. Lui les énonce, Mais il n'aura pas de réponse satisfaisante. Et on pourrait dire heureusement qu'il n'a pas de réponse satisfaisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dernier mot qui viendra lui dire c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y aurait une réponse univoque. Nous sommes dans un monde de signifiants où c'est de l'équivoque et pas de l'univoque. Donc il adresse ces questions à un autre, un personnel, dont les réponses, heureusement, sont à côté, où les non-réponses suscitent donc une interrogation sur cet autre, tout-puissant, toute puissance des mots, et qui donc, sa puissance est mise en question. Il y a une mise en question de cet autre tout-puissant quant au savoir et quant au pouvoir. Pensez au colosse. En vous parlant, me revient un souvenir de Freud qui a été très... il avait 10 ans, qui a été très choqué et il en a parlé quelquefois. Il se promenait avec son père, qui était un type assez costaud, qui avait un chapeau. Dans les années 1860-70, l'antisémitisme à Vienne était quand même assez présent. Et donc, quelqu'un le bouscule et fait tomber le chapeau du père de Freud. Et Freud voit son père qui descend du trottoir et dans le caniveau, ramasse son chapeau, prend son Freud par la main et s'en va. Et Freud est ulcéré de voir que, comme son père, n'a pas cassé la gueule à cet homme qui l'a bousculé. Je pense que le père de Freud a eu raison. C'est-à-dire, au lieu de rentrer dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans une sorte de corps à corps meurtrier avec l'autre, de ramasser son chapeau, de prendre la main de Freud et de s'en aller, c'est de faire jouer cette dimension de parole, cette dimension langagière, cette dimension signifiante, plutôt que de s'écraser sur un objet, là, qu'aurait été un objet meurtrier. Freud n'a jamais accepté que son père n'ait pas répondu à cette attaque de puissance par une réponse de puissance. C'est-à-dire que son père, d'une certaine manière, est sorti d'un lien de toute puissance et d'impuissance. Son père, d'une certaine manière, a dit à cet homme et à son fils, « Je ne suis pas dans l'impuissance. » Justement, celui qui l'a agressé a tenté de le mettre dans une relation d'impuissance, et il lui a dit, « Je sors, je ne suis pas dans cette relation-là. » Il n'y a pas de mot, mais le signifiant passe par les mots. Mais c'est, comment vous dire, il y a de la pensée. Il y a de la pensée silencieuse. Et le fait qu'il ait refusé cette relation de corps à corps, cette relation imaginaire, veut dire que lui se maintenait, le père, dans une dimension où la parole était primordial, même s'il n'y a pas de mots. Ça, c'est quelque chose de... Donc, cette mise en question de l'autre, qu'on va écrire à barré, est nécessaire pour, je dirais, y faire son trou. Et se confronter à l'insuffisance de l'autre, au trou de l'autre, au manque de l'autre. Et ceci, ça ne se fait pas sans difficulté, et ça ne se fait pas sans émotion. C'est-à-dire que c'est très important d'entendre, de comprendre que les émotions, la peur, la joie, la honte, la colère, eh bien, c'est la cause des émotions, c'est lié à cette carence nécessaire de l'autre. L'autre ne nous répondra pas vraiment. L'autre ne sera pas une présence au bon moment. La honte, c'est pouvoir échapper lorsque l'autre refuse son manque, refuse son insuffisance. La honte, c'est rencontrer une parole impudente où on est réduit à être un objet qui est significatif pour un autre qui va en jouir. La colère qui nous prend de temps en temps, ben c'est qu'on a l'impression que l'autre ne répond pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va, via un petit autre, la fugue, c'est une manière, souvent, quand on entend des enfants qui ont fugué, c'est de s'interroger sur celui qui est une figure de l'autre, on va dire les parents, Freud parlait dans un fantasme du parent combiné, ben de savoir si on va manquer à l'autre. Si on a affaire à des figures de l'autre qui donnent l'impression de manquer de rien, ou qu'on ne leur manque pas, une manière d'en savoir quelque chose peut être amenée à une extrémité, par exemple, de fuguer. Donc, il est très important que ces figures de l'autre, d'autres du savoir et du pouvoir, soient mises en question. Et on peut imaginer ces ensembles de signifiants comme une toile d'araignée qui a troué. Alors, on peut entendre aussi araignée, elle araignée, il faudrait peut-être que ça cesse. Donc il y a à trouver dans cette toute-puissance, qui d'ailleurs, cette toute-puissance, peut prendre une figure d'amour. Quelqu'un me disait il y a quelques semaines, ma mère est un libre-service. Tout était à disposition. Je n'avais pas le droit de demander autre chose. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais pu demander? J'ai jamais dit non. Donc, il y a à atteindre à cette toute-puissance supposée de l'autre, et ça, c'est pas sans culpabilité et risque de perte d'amour. Culpabilité vis-à-vis d'un autre qu'on va tenter de dessaisir de sa toute-puissance supposée. Pour le dessaisir de cette toute-puissance, ça ne va pas sans des souhaits de mort. Il y a une observation de Freud que vous pourriez lire, l'homme au rat. Et à un moment, l'homme au rat, je ne me souviens plus très bien d'une colère après son père, et il lui dit, toi, serviette, lampe, je ne sais plus encore un troisième nom, c'est-à-dire une injure. Et le père répond, mon fils aurait pu être un génie ou un grand criminel. Injurier l'autre, c'est une tentative aussi de le dessaisir de quelque chose qu'on suppose une toute-puissance. Et pour désapproprier l'autre de cette toute-puissance, c'est aussi momentanément se l'approprier. Et ce n'est pas sans culpabilité. Freud a construit tout un mythe, s'appelle, vous pourrez lire ça dans Totem et Tabou, un mythe du père de la horde qui est complètement faux au niveau anthropologique. Hein, un père de la horde, c'est-à-dire qu'il avait tout à sa disposition, toutes les femmes, et les fils l'ont tué pour avoir une partie de son pouvoir. Et se partager les femmes. Oui. C'est très intéressant parce que c'est comment, confronté à une toute-puissance, on trouve cette toute-puissance, mais ça, ce n'est pas sans perte d'amour et perte de jouissance, puisque ce père, selon Freud, avait toutes les femmes. Les autres ont quelques femmes. Ce tout disparaît. C'est un mythe. C'est un mythe qui, au niveau logique, est très juste, mais qui, au niveau anthropologique, est quasiment délirant. Donc c'est une mise à mort de ce Tout-Puissant, de cet Omnipotent. Et ça nous interroge quand même, parce que c'est quoi cette fascination que l'on a tous pour le pouvoir? Qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a une sorte de servitude volontaire chez tout un chacun? Et je pense qu'il est important d'interroger cette illusion du pouvoir. On en parle beaucoup actuellement, hein, et notamment de ces rapports de pouvoir et de sexe. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait à interroger. Et il faut entendre que les notions analytiques, les concepts analytiques, sont là pour questionner et non pas pour trouver des réponses à tout prix. Je pense que les notions analytiques, qui sont pertinentes essentiellement dans le cadre du dispositif analytique, sont néanmoins tout à fait intéressants pour questionner, mais pas pour trouver des réponses. Je dis pour questionner parce que quand on entend beaucoup un discours du déclin, c'était beaucoup mieux avant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pouvoir qui se tiendrait vraiment. Bien, quand il y a ce discours-là d'un dessaisissement de la puissance ou de la toute-puissance, curieusement, dans cette décomposition de cette toute-puissance, on assiste à des recompositions qui peuvent prendre des allures extrêmement violentes. Et d'une certaine manière, dans ce dessaisissement du pouvoir, qui est vécu pas sans culpabilité, ben, ça peut entraîner une réaction d'hypermoralité. Et on peut se poser la question si la question du terrorisme n'est pas quelque chose d'une hypermoralité. Et je rappellerai, mais je n'ai pas été recherché plus loin, mais la terreur lors de la Révolution française, ça s'associe avec la vertu. C'est-à-dire qu'il y avait une nécessité de constituer des patriotes. Et donc, il y avait des massacres et il y avait quand même des tueries importantes, mais constituer une communauté de patriotes qui retrouvait une puissance, mais surtout au nom de la vertu, au nom de la moralité et d'une hyper-moralité. Et dans cette position-là, c'est une manière de retrouver une toute-puissance, soit à sauver l'humanité, soit sauver Dieu, soit sauver les déshérités, soit incarner la vérité. Donc, je disais, une mise en question de l'autre, du savoir et du pouvoir, et ça nécessite de le restaurer en le leurrant, alors pas obligatoirement d'une manière terroriste, en leurrant son manque, ce trou, avec le fantasme. C'est-à-dire que tout à chacun, on va essayer de se situer par rapport à ce manque qui est au sein de l'autre, on va essayer de se situer pour s'y inscrire et en même temps y échapper. Et tout à chacun, nous soutenons debout une position fantasmatique qui est une manière d'être un objet désirable pour l'autre, mais en même temps on n'y est pas tout entier. C'est ça faire son trou. Et même s'identifier à un trou. Et dans ces signifiants qui nous échappent, signifiants c'est équivoque. Mère, on ne sait pas ce que c'est qu'une mère. Père, on ne sait pas ce que c'est. Fille, garçon. Moi je suis assez frappé que des adultes, comme on dit, ça existe, lorsqu'ils parlent de relations avec, mettons, leurs collègues de travail, ils vont parler des filles et des garçons. C'est pas inhabituel qu'on entende. Même dans un groupe, on va dire, tiens, on fait une photo, on va mettre les garçons d'un côté, les filles de l'autre. C'est des gens qui ont entre 30 et 70 ans. Donc on voit bien que filles, garçons, hommes, femmes, mère, père, c'est une dimension signifiante. On ne sait pas ce que c'est. Tu es ma génitrice. Tu es. Je te dis bonjour. Je suis ton enfant. Tu es ma mère, tu es mon père. Donc d'une certaine manière, à dire bonjour à quelqu'un, à lui dire bah tu es ma mère, tu es mon père, c'est accepter cette succession des signifiants qu'on peut figurer par la succession des générations. Sinon, on peut ne pas entendre ces signifiants, on peut même les refuser. On peut refuser cette dimension signifiante. Je parle de toi comme une génitrice. Une génitrice, ça n'a pas une dimension signifiante, je dirais que ça a une signification univoque. On sait ce que c'est qu'une génitrice. Et sans le savoir, alors, puisque je te parle à toi et je te dis que tu es ma génitrice, c'est un jeune garçon qui a écrit ça dans une lettre, je me réduis ou j'étais réduit à un morceau de chair. Et donc je me dégoûte, tu me dégoûtes. J'ai pas demandé à naître. C'est des choses qu'on entend, pas seulement en analyse. Je n'ai pas envie de me servir de quelque signifiant que ce soit qui est là à ma disposition et qui pourrait me donner du sens à ma vie momentanément ou durablement. Tu sauras, il y avait moi quand j'étais gamin. Il y avait un truc de Kipling, tu seras un homme, mon fils. J'ai oublié ce qu'il était raconté, tous les prédicats qui étaient. Mais ça m'a fait quelques séances d'analyse, tu seras un homme, mon fils. Bon. Donc le tu seras, vous voyez qu'il y a du futur. Donc si on s'accroche à tu seras un homme, mon fils, c'est un signifiant. C'est une phrase signifiante en sens que qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça donne du futur. Ce que Freud a appelé l'idéal du moi. L'idéal du moi, c'est, je reviens encore à ma terrasse de café, je vois passer un homme que je trouve qui a une sacrée allure. Ah, je me dis, tiens, j'aimerais bien être cet homme-là. Habillé comme il est, l'allure qu'il a. Puis l'âge qu'il a maintenant, moi, c'est plus cet âge-là, j'aimerais bien être comme lui. Et puis, en même temps que je suis en train de me dire ça, silencieusement, il y a une femme qui rit. Il y a un rire de femme. Donc, je suis là à une terrasse de café et je dis, je voudrais. Plus tard. Être cet homme. Et puis, y a ce rire de femme. La passion, dont le je voudrais, c'est l'idéal du moi. Cet homme qui a de l'allure, c'est un moi idéal. Je m'idéalise dans cette image. La passion, c'est de réunir le je voudrais et cet homme. Je suis cet homme qui couche avec la femme qui rit. C'est ça la passion. C'est-à-dire que se rejoint un souhait, une image idéale, et puis un objet pulsionnel, une voix liée à une supposée femme. Et je peux tomber totalement amoureux d'un sourire et me prendre pour cet homme. Et la passion est une manière de réunir et ce souhait, et cette image idéale, ce moi idéal, et cet objet. D'où, vous voyez que si on est pris de passion, pour que se maintienne agencer ces trois éléments-là, c'est pas tous les jours. D'où les moments ravageurs pour essayer de maintenir à tout prix cette collusion de cet objet, de ce moi idéal, et puis de ce je voudrais. Je ne veux plus, puisque je le suis. Je le suis, cet homme qui est aux prises avec cette femme au rire sensuel. Donc, tu es ma génitrice, tu es. Il se trouve que ce jeune garçon a effectivement agi ce qu'il avait écrit. C'est-à-dire que la mise en question de l'autre via les autres, et notamment les parents, ça met en question le narcissisme de chacun. Freud, quand il voit son père, il aurait aimé avoir un père colossal. Et Freud a été atteint dans son narcissisme de ne pas avoir un père colossal. Sauf qu'il avait un père intelligent du côté du symbolique. Cette mise en question du narcissisme des parents, bah, ça entraîne du meurtre. Je dirais que un enfant, ça met en question. Et le meurtre de l'enfant est quelque chose qui est quand même assez présent depuis des siècles. Soit l'enfant qu'on veut tuer, soit l'enfant qui se tue. Et c'est dans ce rapport-là, à ce rapport au grand autre, et dans la dette que l'on a d'accepter de s'inscrire dans cette succession de signifiants qui nous ont précédés ou qui aussi se sont inscrits au cours de notre vécu. Donc, ce jeune garçon a été dans un refus de cette dette. Et cette succession de signifiants qui entraîne une succession indéfinie de significations, génitrice c'est univoque, mais mère ça a plusieurs significations, fonction de si c'est une mère en fonction du métier qu'elle fait, en fonction de la voix qu'elle peut avoir, ça ouvre des champs sémantiques divers. Et la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que dans cette nappe langagière, dans cette toile d'araignée, on suppose qu'il y a du désir. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a du manque et que ce manque va être rapporté à ceux qui vont figurer de grands autres. Et que ce désir inconnu, ce désir qu'on interroge, ce désir qu'on met en question, ben c'est ça qui va me rendre visible. Je parlerai tout à l'heure du stade du miroir. Mais ce qui va me rendre visible et qui me donne un rapport à mon corps très différent. Et c'est important que vous entendiez dire mon corps est à moi, oui. Oui, parce qu'en plus, on se fait piéger par les autres, par notre corps. On est emprisonné. On peut se sentir emprisonné, mais on peut être aussi emprisonné physiquement. Et puis, le père de Freud, il allait être piégé au niveau de son corps. Il allait se faire casser la gueule. Mais mon corps, il n'est pas à moi. C'est-à-dire, comme un symptôme n'est pas mon symptôme, mais est lié à un discours, mon corps est lié à un discours. Donc, je n'ai pas un corps propre. Mon corps, il est impropre, car il est, je dirais, visible, il tient debout en fonction du discours dans lequel je suis inscrit. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas se mettre debout, il y a des gens qui momentanément ne se voient plus dans le miroir, et c'est une expérience qui est arrivée à Freud dans le train, il passe devant une glace, il dit, qui c'est ce bonhomme-là? Et il a mis un certain temps de se dire, maintenant c'est moi. Donc vous voyez que ce rapport que l'on peut avoir chacun à notre corps, le corps que l'on sent, le corps que l'on voit, ça ne va pas de soi. Donc, L'autre et ceux qui figurent cet autre manquent du mot qui dirait qui je suis dans mon existence de vivant et de sexué. Et donc, comme Fritz, tout à l'heure, qui se posait la question de son existence, mais il posait aussi la question, mais à quoi ça sert un papa? À quoi ça sert une maman? C'est au fond, quel est ton désir? Quelle est ta jouissance? Pourquoi moi je suis là? C'est ce que Freud a appelé la scène primitive, qui se fantasme chez chacun. C'est-à-dire, au fond, quels sont les désirs qui ont fait que j'existe? Et puis, l'objet de leur désir, qu'est-ce que c'est? Et comment je vais m'en débrouiller? Mais en même temps, c'est important que cette question-là, ça garantit que l'autre, c'est une altérité. Sinon, c'est une présence menaçante, jouissante, cauchemardesque. Le cauchemar, on se réveille. Hein. C'est que cette altérité du grand autre, elle risque de disparaître. Et donc, elle risque à ce moment-là de me vampiriser, de me prendre totalement, et on se réveille à ce moment-là. Parce que justement, il n'y a pas l'objet qui va venir, en transaction entre le sujet et l'autre. Et quand cette présence de l'autre, et des gens vivent ça, cet homme qui avait sa famille dans son corps et ça le balançait à droite, à gauche, ben ça rend la vie quasiment invivable et peut faire penser qu'on est entouré de morts-vivants. Je pense que les films de morts-vivants, on pourrait les penser avec ces notions-là. Donc c'est d'abord à quoi on a affaire, au désir de l'autre, à ce qui manque à l'autre. Et notre désir va venir s'inscrire et se lier à ce désir-là. Donc je vais m'inscrire dans cet ensemble de signifiants, mais il faut aussi que je m'en sépare, car si je ne m'en sépare pas, je risque d'y disparaître tout entier. C'est bien la sensation qu'on a dans un cauchemar. On a l'impression qu'on va être écrasé, qu'on va être rattrapé, qu'on va être dévoré entièrement. La question, et que posait Fritz, mais que tout à chacun nous nous posons, c'est ma présence, mon absence, ma visibilité a-t-elle un sens pour l'autre? Que veut l'autre? Et il y a une urgence à trouver une réponse à cette question. Il y a une hâte. Alors, si, qui est la réponse, c'est une réponse, on construit un fantasme. Et je dirais que s'il n'y a pas cette réponse possible, on a affaire à un trou béant, vampirique, d'où risque de déferler des signifiants qui font sens dans tous les sens, puisqu'ils ne sont plus articulés entre eux, et me désorientant et me submergeant. Cet homme, puisqu'il ne pouvait pas mettre en association les signifiants, j'irais familiaux, on va dire les choses bêtement comme ça, ben ça le prenait au corps, et mais il était vraiment, à certains moments, il ne pouvait pas, il était à gauche, il ne pouvait pas aller à droite. Ça prenait tout un temps, il fallait qu'on en parle, pour que progressivement, ça bouge un peu dans son corps. Donc cette question, que veut l'autre, quel désir pour mon existence, quel désir aussi en tant que garçon, en tant que fille, hein. Je parlais tout à l'heure de scène primitive, qui est une construction fantasmatique. Je vais vous dire ce que disait quelqu'un. Un jour, un jeune homme, il était jeune homme, il avait 14 ans, 15 ans, Il entend ses parents qui font l'amour. Et ça va l'amener à passer la nuit, me disait-il, il avait 10 ans de plus, dans la baignoire. Qu'est-ce qu'il a entendu de l'autre? Qu'est-ce qu'il a entendu? Et qu'est-ce qu'il a pu construire lui comme autre sans altérité? Puisqu'il s'est vécu comme un simple objet de décharge, parce qu'il s'est vécu comme extrêmement dégoûtant à ce moment-là. Il s'est pas lavé dans la baignoire, il s'est mis dans la baignoire. Si on se lave, on n'est pas dégoûtant. On se lave pour ne pas être dégoûtant. Quand on est dégoûtant, on ne peut pas se laver. On ne peut pas se changer de vêtements. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'il se vivait comme un simple objet de décharge, de jouissance, et non pas l'effet de rencontre de deux désirs qui renvoient à du trois. C'est-à-dire dans tout acte sexuel. Il y a du trois, au moins. C'est-à-dire qu'il y a les deux désirs, un enfant à venir, un enfant imaginé, ou pas d'enfant du tout. Mais notre existence est liée, s'interroge, où est-ce que j'étais avant d'être né? Qui a présidé comme désir à mon existence? Donc, cette question-là, dans l'acte sexuel, elle est chez chacun de ceux qui sont là dans cet acte sexuel. Il y a obligatoirement cette question de l'enfant, et si vous voyez, ça monte sur trois générations, puisqu'on pose la question aussi, et moi, quel désir a présidé à mon existence? Quand il n'y a pas ce trois, pour ce jeune homme, il était en grande difficulté, justement, de pouvoir supposer qu'il y ait du trois dans un acte sexuel, ce qui d'ailleurs le mettait en grande difficulté lui-même du côté des actes sexuels. À ne pas pouvoir compter, ou supposer ne pas pouvoir compter sur les signifiants de l'autre qui ferait existence, même précaire, à ce moment-là, il peut compter que sur lui-même, et donc il est livré jour et nuit à des figures cauchemardesques. C'est quelqu'un, quand il a commencé à aller mieux, qui avait des craintes dans son travail que des supérieurs hiérarchiques le saisissent par derrière. C'est-à-dire qu'il y a une toute-puissance qui était tout le temps là. Même si les choses étaient moins cauchemardesques pour lui, c'était venu des pensées qui étaient inquiétantes, mais c'était plus vécu au niveau de son corps. Donc, la question qui ne peut pas se poser, ou que momentanément il n'a pas pu se poser en entendant ses parents faire l'amour et en passant la nuit habillé dans la baignoire, c'est: mais est-ce que l'autre se pâme-t-il devant l'objet que je représente? Et si je me pose cette question-là, je n'ai pas de réponse. L'autre se dérobe indéfiniment, mais je ne suis pas laissé tomber. Lui ne pouvait pas se formuler ces questions-là. S'il avait pu se formuler cette question-là, il aurait pu articuler la question du désirable et du désirant, et cette question aurait pu être pour lui quelque chose de plus aisé dans sa vie, ce qui n'était pas le cas. Alors je terminerai sur la question du visage, du nom et du sexe. Et je vais vous prendre pour illustrer un petit peu cette articulation du sujet et de l'autre, le sujet qui s'inscrit dans ces signifiants de l'autre, j'ai pensé que de vous parler un peu du stade de miroir de Lacan, qui est un texte de 36, qu'il a remanié lorsque les écrits sont sortis. C'est pas lui qui l'a inventé, puisqu'il y avait un psychologue, Henri Wallon, qui avait beaucoup parlé de l'enfant et du miroir. Mais c'est quand même quelque chose d'important, parce que ça a marqué en 1936, Lacan est un jeune analyste, et puis dans sa théorisation, ça a toujours été quelque chose qui a été central, c'est-à-dire ce qu'il appelle la question de l'imaginaire, était quelque chose d'important. Le stade du miroir, c'est entre 6 mois et 18 mois, c'est un enfant qui se voit dans le miroir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu travaillé avec un enfant qui ne se voyait pas dans le miroir et qui, première évolution, il se voyait dans ce miroir que si moi j'étais derrière lui, si je n'étais pas moi derrière lui et donc visible dans le miroir, il ne se voyait pas. Et puis ensuite, bon, il a pu. Donc cet enfant se voit dans le miroir et imaginons-le dans les bras de sa mère, il se voit dans le miroir et il se retourne vers sa mère, et d'une certaine manière, il interroge son regard, en lisant dans son regard une question, mais qui je suis pour toi? Évidemment, il n'aura pas de réponse, une réponse totale. Donc, vous voyez que c'est une expérience qui met en jeu le regard, le scopique. Le regard de la mère, une image. Cette image est une image qui permet que ce corps qui n'est pas encore unifié au niveau du schéma corporel, eh bien l'image va venir se superposer sur le corps, le schéma corporel, et donne une unification prématurée par rapport au schéma corporel. Mais c'est une unification très importante, puisque cette image que la théorie appelle le moi idéal, cet homme que j'ai vu passer devant la terrasse de café où j'étais, eh ben c'est cette pelure d'oignon qui commence à se construire là, dans cette expérience primordiale. Et je l'avais noté, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est une. Pour Lacan, c'est un moment de jubilation, de jouissance, c'est un moment d'aliénation, il dit de servitude imaginaire. C'est-à-dire qu'on est pris par cette image. C'est-à-dire moi, sur cette terrasse de café, voulant être cet homme, c'est une aliénation imaginaire. Pourquoi je voudrais être cet homme? Et Lacan va dire que c'est une servitude imaginaire avant toute détermination sociale. Donc, cette image, mon sentiment d'exister dans mon corps, dans un corps, il y a cette image qui est moi, tout en n'étant pas moi, parce que c'est mon image, ce n'est pas moi. Et puis, il y a l'autre, figure de l'autre, qui regarde. Et je m'interroge sur, mais qui je suis pour toi et qui je suis et qu'est-ce cette image-là, qu'est-ce que c'est pour toi? Et on peut parfois voir des écarts et cette tentative de satisfaire un regard avec des images qui sont plus ou moins éloignées de nous. Quelquefois, on est prêt pour plaire à se déplaire, hein, comme bon. Alors, je terminerai sur cette question du semblable, parce que on dit toujours sont mes semblables, et que l'image de l'autre, qui est d'abord aussi des miroirs, c'est pas l'image d'un semblable. Évidemment, je vais pouvoir dire que c'est un prochain, c'est un proche, c'est une relation plutôt pacifiante et qui m'amène à vouloir peut-être prendre soin du prochain, hein, prendre soin de son prochain. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Mais surtout, cette image primordiale, cette image que me renvoie l'autre, c'est une image qui est fondatrice de mon désir. C'est-à-dire que, avec cette image, naît la jalousie. La jalousie, parce que m'est révélé dans cette image l'objet désirable qui va peut-être s'imposer comme objet de mon désir. Et la jalousie prend racine ici, dans cette servitude imaginaire, dans ce moment d'aliénation qui existe avant toute détermination sociale. Donc vous voyez, ça touche un point tout à fait essentiel. Alors cette réalité visible de moi-même met en jeu le visage que je vois enfin. Je vois enfin mon visage. Et le visage, comme le sexe, se voit de face. C'est important parce que il sera important dans le développement de chacun, c'est qu'à un moment s'accordent le visage et le sexe, le visage et les désirs sexuels. On parle souvent de perdre la face, hein. C'est-à-dire que ça peut me précipiter dans un visage sans sexe, ou ça peut me précipiter dans un sexe désarimé de toute image, de toute parole, laissé à lui-même. C'est une chose qui est connue. André Gide était quelqu'un qui aimait les jeunes garçons. Hein. Il y a un très beau texte de Lacan sur la jeunesse de Gide, dans les écrits, c'est un texte en plus très littéraire et extrêmement intéressant à lire. Or, ce qu'on sait de Gide, c'est qu'il pouvait avoir fait trois fois l'amour avec un ou deux jeunes garçons. Puis quand il rentrait chez lui, il était dans une frénésie masturbatoire terrible. Ben, on peut penser qu'il y avait quelque chose de ce désaccord entre, je dirais, de ce que je peux, moi, avoir comme visage, et puis le sexe, qui sont désarimés l'un de l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus ce soir. Sur le désarimage du visage et du sexe. Je ne pensais pas m'arrêter là-dessus. Oui, bah le nom, c'est-à-dire que la question du visage et du nom est une question importante, car il faut que notre nom aussi nous soit impropre. Notre nom doit nous être hétérogène. En plus, notre nom, il nous est transmis, et puis éventuellement, on va le transmettre. Hein? Ce qui m'a été encore plus enseigné, c'est un analysant qui, à un moment, a perdu la reconnaissance de son visage. Ça a duré quelques mois. Hein. Ça a été un moment dans le transfert nécessaire, après coup, mais quand il est venu me dire qu'il ne se reconnaissait plus dans le miroir, c'était préoccupant. Je reprenais toutes les séances qui avaient précédé pour essayer de mieux articuler tout ça. Et puis, il a retrouvé la reconnaissance de son visage à la suite d'une séance. À la suite d'une séance où il a vu les lettres de son nom s'éloigner de son corps et aller au plafond. Et la séance suivante, il me disait « Je me reconnais dans le miroir ». C'est-à-dire que si notre nom nous est pas hétérogène, c'est-à-dire que si notre nom est une présence de tout le temps et non pas quelque chose qui nous a été transmis et qu'on va transmettre, de toute façon, il y a un rapport avec la question de la reconnaissance du visage. Voilà ce que je pourrais très rapidement. Ouais. Pourquoi je me sers de l'eau? Pourquoi je me sers de l'eau? Il y a des questions.
La libération de la parole, c'est pas que ça. C'est une incarnation et un corps qui est en jeu de très multiples et de très complexes manières, comme vous l'avez montré. Et à un moment donné, je crois que tout au début, vous parliez de l'inconscient et de la lecture.
Oui.
Et je me demandais par rapport à l'écriture, parce que vous avez beaucoup parlé du signifiant, je me posais la question, du coup, puisque vous parlez beaucoup du corps aussi, je me posais la question de la place que vous donnez à la matérialité du signifiant.
Ah! La question de la lettre. Hein? C'est une question difficile. Il y a un analyste qui a beaucoup parlé de la lettre. Bon, c'est Lacan qui a parlé de la lettre. Il y en a un qui s'en est saisi, qui était un analyste intéressant, qui écrivait extrêmement bien, il s'appelait Serge Leclerc. Et lui comprenait la lettre comme une trace sur le corps, comme une caresse sur le corps, un doigt qui inscrivait une différence esquisse, il disait. Hein? Une différence, donc esquisse, et donc un moment comme ça de satisfaction. Donc il articulait la lettre avec la satisfaction. Et que satisfaction qu'on va essayer d'obtenir de nouveau, mais qu'à chaque fois on n'obtiendra pas à l'identique. Hein? Donc il y aura un écart entre la satisfaction envisagée et la satisfaction obtenue. La question de la lettre, donc de cet écrit-là, est très articulée avec la jouissance, la satisfaction. Le signifiant fait jouer la question de la satisfaction, mais aussi la question de l'image. C'est là où il y a Lacan a de plus en plus à parler de la lettre, parce que ce qui l'intéressait, c'est d'arriver à ce point ombilical de la rencontre du, je dirais, des mots et du corps. Donc, à ce moment-là, et donc du corps jouissant, du corps pulsionnel, donc de la satisfaction, et donc là où il y aurait une rencontre, ce serait la lettre et la satisfaction. Le signifiant venant articuler avec le stade du miroir, je dirais dans le regard, c'est pas de la lettre, c'est du signifiant. Et donc il y a de l'image. Il y a de la satisfaction, la jubilation de l'enfant qui se voit dans le miroir, et une dimension signifiante, c'est-à-dire de l'équivoque. La lettre n'est pas équivoque. La lettre n'est pas équivoque, mais elle est au plus près du réel. Elle est au plus près du réel, et on va dire que loup, le loup dont je parlais tout à l'heure, on pourrait le penser comme un signifiant au plus près des réels, donc aurait une dimension de l'être. Voilà, c'est parce que si on le loup, il trompe pas le loup. On est un objet à croquer. Hein. Donc là, il perd sa dimension signifiante, équivoque, alors que le renard transporte avec lui l'équivocité signifiante. Hein? Donc voilà ce que je pourrais répondre sur la question de la lettre. Alors sur la question de l'écriture et l'écriture inconsciente, c'est quelque chose d'assez compliqué. Sur ces traces écrites, qui nécessite des traductions. Et Lacan a beaucoup travaillé la lettre 52 de Freud, où il y a justement toutes les traces de mémoire qui doivent se traduire. Je dirais que c'est une traduction, la psychanalyse. Mais tout ne se traduit pas, et parce que tout ne se traduit pas, et heureusement que tout ne se traduit pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle le refoulement originaire, c'est-à-dire qu'il y aura de toute façon des choses qui resteront inconscientes. Donc voilà, sur la question de... Si j'ai répondu à la question de la lettre. Peut-être avec un petit coup, on peut peut-être parler plus facilement. Oui, la psychanalyse, c'est pas seulement une affaire de langage, c'est pas une affaire intellectuelle. C'est très important. Enfin, si j'ai au moins fait entendre que ça a à voir de cette rencontre des mots et du corps. Et que les gens qui souffrent dans leur corps et qui sont en analyse, ce qu'on remarque quand même pas mal, c'est que les gens en analyse tombent moins malades. Ils tombent beaucoup moins malades que la plupart des gens. En même temps, il y a aussi, et ça il faut le dire, hein, je pense à des gens qui sont très perturbé, pour dire les choses comme ça, parce que je n'aime pas la nosographie, névrose, psychose, perversion, vous savez, ces trois choses-là. Je pense que c'est une erreur que la psychanalyse ait repris ça. Hein. C'est Freud qui a inventé la névrose obsessionnelle. Hein. Alors, il dit des choses tout à fait passionnantes, mais je trouve que c'est enfermer quelqu'un dans une nosographie, dans un diagnostic. Hein. Mais des gens très, très, très très en difficulté, une manière de fermer le lieu de l'autre. Parfois, ils le font avec du corps. Ils peuvent le faire avec du corps qui va être opéré. Et donc, parfois, pour fermer le lieu de l'autre, hein, trouver un ombilique à l'autre, ça peut amener une maladie grave. Ça peut amener de devoir être opéré. Et ce que je disais très rapidement, on le paye de sa chair, ça. Hein? Au lieu de le payer avec des images, c'est-à-dire passer du temps à raconter à son analyste qu'on aimerait bien être cet homme-là, quoi. Hein? C'est une manière de payer avec des images, que le lieu de l'autre, il est fermé, mais que si je passe mon temps à parler de cet homme que j'aimerais être, peut-être va surgir un signifiant qui mettra en perspective non pas le rire de cette femme, mais peut-être un sourire, peut-être une voix, peut-être un mouvement de cheveux, autre chose, un autre objet, et que je ne sois pas, moi, piégé dans cette image idéale et dans cet objet qui reviendrait tout le temps. C'est-à-dire que je ne pourrais, moi, n'être passionné que par un rire de femme, pas n'importe lequel, et une allure d'homme. C'est une sacrée prison. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc on paye avec des images, ou on paye avec des mots qui font passer du signifiant, pour tenter de sortir, par exemple, de cette image et de cet objet qu'est ce rire, que cette voix. Hein, et peut-être de pouvoir marcher autrement, s'habiller autrement, et peut-être être sensible à quelque chose qui serait de l'ordre du regard et qui serait de l'ordre peut-être du toucher. Et donc, ce serait une transformation du rapport entre les mots, les images et ces objets que sont le regard, que sont l'objet oral, l'objet anal, la voix. Hein. L'analyse, ça tente de transformer ça. Quand ces trois choses-là sont agencées entre elles. Si ce n'est pas agencé, c'est que le lieu de l'autre ne s'est pas fermé, vraiment. Et donc, tout le travail de l'analyse va être de le fermer. Mais parfois, on le paye avec son corps, avec des opérations. Ça peut être momentané, et puis quelquefois, ça peut être des maladies plus graves. Donc, voilà.
Merci.